RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45, info soir, c'est avec vous Lionel Sabot.
10 ans de prison pour l'homme qui avait poignardé le convive d'un mariage en 2022 à Canala. Demain, la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie jugera l'auteur d'un féminicide à Nouméa. Le plan de reconstruction et de refondation du gouvernement présenté aux membres du CESE. Plusieurs objectifs à court et moyen terme ont été évoqués. Explications dès le début de ce journal. À la semaine de la langue française et de la francophonie, bas son plein, nous y avons consacré notre magazine citoyen à la mi-journée, extrait dans cette édition. Le Sénat coutumier continue de recueillir les doléances des habitants du Grand Nouméa. Samedi aura lieu le deuxième forum du Livre blanc des quartiers populaires. Et puis le football est J-3 avant la demi-finale des qualifications océaniennes à la Coupe du Monde. La sélection calédonienne disputait ce matin une opposition contre l'équipe réserve des Wellington Phoenix. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. L'actualité judiciaire fait la une ce soir. Depuis hier, la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie jugeait un homme accusé d'avoir poignardé à mort l'un des invités d'un mariage. C'était en 2022 à Canala. Le verdict est tombé un peu avant 17h et l'homme a été condamné à 10 ans de prison. L'avocat général avait requis ce matin 12 ans de réclusion criminelle. À partir de demain, c'est un drame familial qui sera jugé sur 3 jours aux assises de la Nouvelle-Calédonie. Un homme de 38 ans est accusé d'avoir tué sa compagne lors d'une dispute. C'était en juillet 2022 à Nouméa. Écoutez l'avocat général Philippe Faisandier.
L'information établit qu'il y a une dispute conjugale au sein de ce couple qui a 2 jeunes enfants. Et au cours de la dispute, le compagnon a asséné avec un objet contondant des coups à sa compagne qui est décédée de ses blessures un peu plus tard à l'hôpital. Les circonstances sont un petit peu particulières puisqu'il semblerait que la scène ait eu lieu à un certain moment dans la matinée et que plutôt que de prévenir immédiatement les secours, peut-être sous l'effet de la panique. En tout cas, il a quitté l'appartement, il est allé chercher ses enfants à l'école, il est revenu et là, il a, afin de découvrir une scène enfin, qu'il connaissait déjà, bon, il a fini par reconnaître et admettre qu'il y avait eu cette scène de ménage qui s'est tragiquement terminée et qui fait donc 2 orphelins. La peine encourue, il s'agit d'un féminicide et la réclusion criminelle à perpétuité.
Un des propos recueillis par Nicolas Legrand, l'affaire doit être jugée jusqu'à vendredi. L'avenir de la Calédonie est toujours au cœur des discussions. Le plan de reconstruction et de refondation du gouvernement a été présenté ce matin aux membres du Conseil économique, social, environnemental et régional. Jean-François Bodin.
Après les émeutes de l'an dernier, l'économie calédonienne est à terre. Mais comment les acteurs vont-ils pouvoir s'en sortir pour tenter de faire face et de répondre à cette situation catastrophique? On se souvient que le 17e gouvernement avait travaillé sur l'élaboration du fameux plan PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction. Le CESE de Nouvelle-Calédonie s'était également intéressé au sujet et avait émis des recommandations et ses avis ont été suivis par les institutions, explique Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie. Il était présent dans l'hémicycle de la province sud ce matin pour la restitution du plan.
On travaille souvent avec le CESE. C'est important de pouvoir travailler avec la société civile et les représentants de la société civile. On a au niveau du CESE différents représentants qu'on voit dans d'autres cadres, mais là, sur la partie reconstruction, nous avions des propositions sur la partie exportation, sur la partie agriculture, sur la partie compétitivité qui était important de prendre en considération. Et donc, sur la partie simplification administrative, où il y a eu un travail important du CESE et où on souhaite aller très loin dans la simplification des démarches aux Calédoniens. Donc non, c'était une bonne séquence d'échanges.
Et même si le mot sauvegarde a disparu du plan PS2R qui devient le plan de reconstruction et de refondation, l'idée reste la même, explique Christopher Gigès.
Peu importe le nom qu'on souhaite lui donner, l'esprit est là d'avoir une reconstruction qui soit importante sur le court et le long terme et qui associe l'ensemble des forces politiques et l'ensemble de la société civile. Il faut régler la situation des assurances pour que les entreprises puissent toucher leurs indemnités. On va en mettre en place une simplification administrative pour les entreprises qui souhaitent reconstruire, mais on est aussi sur une phase de plus long terme sur un modèle fiscal et social qui soit compétitif pour le coût du travail, d'avoir une fiscalité aussi qui soit attractive pour la Nouvelle-Calédonie et pour les entreprises. Donc beaucoup de chantiers en cours sur lesquels on souhaite avancer rapidement. On est vraiment dans une logique où on souhaite repartir de l'avant en Nouvelle-Calédonie et c'est bien l'objectif qu'on se donne, peu importe le nom qu'on lui donne.
Cette restitution s'est notamment déroulée en présence du membre du gouvernement, Petelo Sao, en charge du secteur de la construction, mais aussi de représentants du Conseil économique, social, environnemental et régional qui est actuellement sur le territoire, ce qui doit aider à porter au niveau national les différentes demandes de la Nouvelle-Calédonie à propos de la reconstruction.
Vous le disiez, Jean-François, une délégation du Conseil économique, social, environnemental et régional de France et des Outre-mer est actuellement sur le territoire en Calédonie. Elle comprend les présidents de plusieurs CESE de métropole et d'outre-mer et conduite par son président Dominique Vienne qui était notre invité du matin, Elisabeth Noir.
Il y a au total 23 Césaires qui sont placés à côté des exécutifs régionaux pour les informer et les conseiller. Ils se réunissent tous les deux mois à Paris et cette assemblée des Césaires est présidée par Dominique Vienne, originaire de La Réunion, où il est chef d'entreprise et où il a présidé la CPME. C'est le premier ultramarin à occuper ses fonctions de président du Césaire et sa délégation devait venir à l'origine en Nouvelle-Calédonie en 2024. Déplacement reporté en raison des émeutes de mai. C'est donc cette année que les représentants du Césaire sont sur le territoire et ils sont naturellement sensibles à l'actualité calédonienne et à ce qu'a vécu le territoire il y a 10 mois, nous a dit Dominique Vienne.
Quand on est arrivé depuis 3 jours, on peut pas dire j'ai compris les choses. Mais il y a un triptyque qui tourne dans la tête, c'est l'urgence de l'apaisement, l'exigence de comprendre et la responsabilité de reconstruire. Je pense que ce triptyque d'apaiser, de comprendre et de reconstruire doit être les 3 forces qui tirent les choses vers le haut. Mais encore une fois, je le fais avec respect et humilité, puisque qui suis-je pour avoir tout compris comme ça en 3 jours? Maintenant, si on est venu aussi, c'est pour dire que dans tous les territoires d'Hexagone et d'Outre-mer, les conseils économiques et sociaux nourrissent et peuvent être facilitateurs de ce genre de situation. Pourquoi? Parce que dans nos assemblées, nous représentons toute la société civile organisée. Nous sommes un point d'équilibre entre les intérêts catégoriels, salariés, employeurs, associations, ONG. Et trouver des points d'équilibre dans les sociétés d'aujourd'hui, c'est rare. Donc nous disons, nous pouvons être facilitateurs pour être un point d'équilibre dans des moments où il faut converger, faire du consensus et non pas faire que des débats sous l'émotion. Nous aimons dire que nous faisons des débats sur la raison.
Le CESE de Nouvelle-Calédonie est régulièrement consulté pour avis sur les textes examinés par le Congrès. Il devrait également l'être sur les questions budgétaires, estime le président du CESE, qui souligne l'importance d'associer la société civile à la législation et à la réglementation. De la même manière, il pense que le CESENC devrait être associé aux discussions sur l'avenir institutionnel.
Au sein des CESE de France, nous portons la voix que nous souhaitons être associés à tous les processus qui concernent les Outre-mer. Mais au titre de notre voix consultative, au titre des expertises d'usage que nous sommes, je me répète, pas au titre que nous sommes une institution qui serait légale d'un exécutif qui a été élu par les citoyens. Nous ne sommes pas élus, nous sommes désignés. Mais j'ai souvent coutume à dire, une démocratie est légitime par les élections, elle est complète par les consultatifs. Donc rendons les choses complètes. Et 1+1 fait toujours plus que 1. Donc je pense que le CESENC a toute sa place dans ce processus de réflexion pour trouver un chemin d'avenir pour ce territoire.
Et pourtant, on le sait, le rôle des CESE est souvent remis en cause. Certains envisagent même leur suppression en estimant qu'ils ne servent pas à grand-chose et qu'ils coûtent trop cher. La réponse de Dominique Vienne.
Vous savez, à un moment donné, on pourra dire aux gens, respirer 1 fois sur 2, ça fera des économies, c'est pas vrai. À un moment donné, il faut de l'oxygène. Et les CESE sont un espace d'oxygène, puisque nous sommes, encore une fois, hors catégoriel. J'aime à dire, l'intérêt individuel, généralement, il est dans le catégoriel. Les syndicats d'employeurs, les syndicats de salariés, les associations. Nous, on transforme ça en intérêt commun. Et cet intérêt commun, on le remet aux politiques qui, lui, est légitime pour faire l'intérêt général. Ce processus individuel, catégoriel, commun, général, c'est un processus qui, quelque part, est naturel.
La délégation du Conseil économique, social, environnemental et régional de France et des Outre-mer a débuté son séjour vendredi avec des entretiens protocolaires qu'elle a poursuivis aujourd'hui. Elle va maintenant se rendre sur le terrain et vous pouvez bien sûr retrouver en audio et vidéo l'interview de Dominique Vienne sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
Pour soutenir l'investissement, le gouvernement annonce l'élargissement des travaux déductibles de l'impôt pour tous les immeubles. Les propriétaires peuvent déduire les grosses réparations de ravalement et d'amélioration et pour les immeubles de plus de 2 ans, les travaux d'agrandissement, d'entretien et de revêtement. La nouvelle liste de travaux est applicable dès la déclaration 2024. Le plafond est fixé à 15 millions sur les 3 années fiscales 2025, 2026 et 2027. Le gouvernement informe par ailleurs que dans le cadre de la campagne de l'impôt sur le revenu, les locaux de la direction des services fiscaux seront exceptionnellement ouverts le jeudi 27 mars, le vendredi 28 et le lundi 31 mars jusqu'à 17h et le samedi 29 de 8h à midi. La Fédération des entreprises et des industries de Nouvelle-Calédonie se positionne pour le maintien des droits de douane. Depuis plusieurs mois, les protections de marché et taxes sont au cœur de nombreux débats. Dans un communiqué, la FINC avance sur la suppression des droits de douane à l'entrée du territoire ne serait pas une réponse à la vie chère. Cette suppression entraînerait, selon elle, la perte d'un outil de négociation avec les pays importateurs qui appliquent eux aussi des taxes sur les produits calédoniens. Ce serait, qui plus est, une perte de recettes fiscales pour le territoire. Elle avance également que, par le passé, l'exonération de droits de douane pour certains produits importés n'avait pas entraîné de baisse des prix de vente finale. La FINC propose d'autres solutions pour lutter contre la vie chère, comme la réduction du coût du fret ou celle des charges sociales pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés en augmentant les salaires. Un rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Le monde du transport aérien international calédonien connaît d'importants bouleversements. Ils ont débuté au moment de la crise Covid et des changements qu'elle a impliqués sur le transport aérien international. La Calédonie n'échappe pas à ces bouleversements qui mettent à mal les agences de voyage. Un sujet que nous évoquerons demain à 7h30. Notre invitée du matin sera Vaïa Frogier, présidente du syndicat des agences de voyage.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Selon vous, la présidente de la province Sud a-t-elle raison de porter plainte après la nouvelle provocation du groupe Initiative Bakou qui diffuse un clip incitant à la violence en Nouvelle-Calédonie? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle a tort, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. 86% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que Bruno Retailleau a raison de menacer de démissionner si la France renonce à engager un de faire avec l'Algérie. Ils sont 14% à penser qu'il a tort. Il est 17h57. On marque une première pause dans le journal.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme ECO permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Cinef au soir, Lionel Sabot.
Nous sommes en pleine semaine de la langue française et de la francophonie dont nous avons parlé à midi dans le magazine Citoyen. Une occasion de constater que la langue française et la francophonie, qu'est l'ensemble des locuteurs de français dans le monde, sont à la fois un outil culturel et politique, Jean-François.
Avec 300 millions de locuteurs, le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Le français a aussi la particularité, c'est d'ailleurs la seule langue avec l'anglais, à être parlée sur les 5 continents. Une langue est un outil, un véhicule qui est aussi en constante évolution, et le français au fil des siècles s'est enrichi de multiples apports de langues étrangères. La querelle entre les puristes qui souhaitent une langue figée et ceux qui souhaitent qu'elle évolue n'a donc pas lieu d'être, nous a dit Julien Barret, poète, linguiste. Il est l'invité de l'Alliance Champlain pour cette semaine de la langue française et de la francophonie.
Il me semble que ça date de Louis XIV, hein, l'idée selon laquelle tout fout le camp. L'idée d'une dégénérescence de la langue française, elle est presque consubstantiel dans l'histoire de la langue française, à l'édification d'une norme du français. On a ça avec la constitution de l'Académie française en 1635, on a ça avec l'école obligatoire à la fin du 19e siècle sous Jules Ferry, la règle orthographique qui va permettre de distinguer les bons et les mauvais élèves. Et on a devant nous et dans nos bouches une langue qui est en train d'évoluer. Donc les anciens regrettent parfois leur jeunesse. La langue que l'on parle quand on est vieux n'est plus la même que celle qu'on parlait quand on était jeune. Alors, il y a des jeunes gens dans les cours de récré qui font quacoubé. Quacoubé, c'est quoi? C'est un calembour. Je veux dire, c'est comme « comment vas-tu, yo de poil ?» Ça s'appelle une scie, c'est un calembour par enchaînement. Et est-ce que le « comment vas-tu, yo de poil ?» de Séraphin Lampion dans Tintin, qui date des années 40-50, il est plus valable? Il est différent. En fait, on joue avec la langue, on s'amuse, et la langue progresse ou régresse indifféremment, elle change, elle bouge.
Dans le Pacifique, le français est une goutte d'eau dans un océan anglophone, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est aussi une langue qui peut soutenir la Calédonie dans son intégration régionale. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, qui est aussi en charge de la francophonie, a d'ailleurs annoncé dans le magazine Citoyen que la Nouvelle-Calédonie accueillerait en fin d'année le Forum francophone Asie-Pacifique.
C'est important de défendre cette identité culturelle avec des régions comme Wallis, comme Tahiti. Ça fait partie des outils de développement des relations que l'on a avec le Pacifique. Moi, j'entends souvent, ici, on parle anglais, ça va être compliqué et tout. Mais je pense pas. Je pense pas que le français, l'anglais soient en opposition, comme on vient de le dire, sur le français ancien et le nouveau. Je pense même que les enfants d'aujourd'hui et les enfants de demain seront... La langue ne sera plus une barrière. Et donc, il faut véhiculer le français comme outil de coopération et tout, et s'approprier aussi les autres langues, parce que ça fait partie de notre environnement régional.
Le fait que le français puisse avoir un rayonnement régional se manifeste sur le territoire, notamment au sein du CREPAC, établissement public destiné à promouvoir le français, la francophonie et ses valeurs. Il reçoit chaque année des étudiants venant de pays de la région, nous a dit sa directrice Valérie Meunier, avec un intérêt croissant.
C'est un atout, c'est un levier pour eux. Alors, bien évidemment, pour les Australiens, les Néo-Zélandais, mais c'est vrai qu'on travaille de plus en plus avec des pays d'Asie du Sud-Est, donc avec Singapour, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande. J'ai eu la chance de rencontrer des jeunes francophones dans ces pays qui estiment que c'est une véritable chance pour eux. Alors, ils sont dans des pays multilingues, ils sont plurilingues, c'est les locuteurs que j'ai rencontrés, mais pour eux, la langue française est un véritable atout pour faire des études, pour trouver un emploi bien plus qualifié. C'est pour eux véritablement une chance.
Des extraits de citoyens auxquels participait également une étudiante du CREPAC d'origine thaïlandaise, Ratwadi Boke, qui suit des cours de langue française dans la perspective de sa naturalisation, et Daniel Mirou, le président de l'Alliance Champlain.
Le Sénat coutumier. Le Sénat coutumier continue de recueillir les doléances des habitants du Grand Nouméa. Samedi aura lieu le deuxième forum du Livre Blanc des quartiers populaires. Le rendez-vous est donné à Rivière-Salée pour parler d'économie solidaire et sociale, Léo Fichou.
Oui Lionel, après le lancement du Livre Blanc en novembre dernier, le Sénat coutumier continue de rencontrer les habitants de ces quartiers dits populaires. Un premier forum avait été organisé en février autour du droit des personnes. Cette fois, il sera effectivement consacré à l'économie sociale et solidaire, mais aussi aux initiatives de terrain. Aller à la rencontre des acteurs de l'ESS et des habitants de ces quartiers servira à mettre en lumière les actions solidaires et les projets locaux. Victor Gogny est président de la commission en charge du développement économique, social et de l'environnement du Sénat coutumier.
Là, on avait donc des échanges avec les référents des quartiers qui nous ramenaient un petit peu donc les questionnements, les demandes des gens des quartiers. Là, on avance un peu plus loin pour dire que là, on va plutôt donc faire la démarche inverse, c'est-à-dire d'aller vers les gens, là où les gens y sont, de manière à pouvoir, je pense, simplifier les démarches, remonter de terrain, donc de la part des populations, de nos populations dans les quartiers, mais aussi des réponses à ces remontées de terrain, de la part des personnes qui sont déjà donc acteurs. Et échanger avec justement les personnes en demande. Les personnes en demande, eh bien, c'est bien les populations donc, des quartiers.
Victor Gogny espère que des idées de solutions ressortiront de ce deuxième forum du Livre Blanc, prévu, je le rappelle, samedi de 8h à 17h à la salle de boxe Vincent Cafois de Rivière-Salée, qui sera consacrée donc à l'économie sociale et solidaire et aux initiatives de terrain.
Comment encourager l'agritourisme en province sud? Le premier café tourisme de l'année s'est déroulé ce matin à Fort-Terrain-Bas sur la thématique « Le bonheur est en brousse », Charlotte Coulson.
Car le tourisme en milieu rural rencontre de plus en plus de succès. Dégustations, séjours ou activités agriculturelles, les voyageurs sont en recherche d'expériences immersives. Il faut donc apprendre à les valoriser. C'est le but de ces rencontres organisées par la province sud. Plus de 40 personnes étaient présentes à Fort-Terrain-Bas ce matin, des adhérents du réseau Bienvenue à la ferme ou de la Chambre de l'agriculture et de la pêche, mais aussi des professionnels de Sud Tourisme. Dominique Lepoul travaille à la direction du développement économique du tourisme de la province sud et a coordonné l'événement.
On avait une thématique cible, on voulait travailler sur la communication et sur le parcours client. Donc la manière de mettre en avant, de valoriser l'expérience client, l'expérience agriculturelle en quelque sorte. Et pour ça, il y a des outils, les échanges ont été très animés. Et puis surtout, On a commencé par des présentations web marketing, mais on a continué sur un atelier d'échange collectif. Donc, on a mis en commun notre matière grise pour essayer de travailler sur l'amélioration et le développement de l'agritourisme en province sud.
Et le prochain rendez-vous de la DDET, c'est sur le net. Un webinaire est proposé mardi 25 mars de 8h30 à 10h pour apprendre à être mieux référencé sur Google. Les inscriptions se font sur le site de la province sud dans l'onglet formation.
C'était une journée consacrée aux associations environnementales qui s'est déroulée à Bouraille aujourd'hui, en grande difficulté financière depuis l'année dernière. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, via l'Observatoire français de biodiversité et l'Agence néo-calédonienne de biodiversité, a donc organisé une journée de discussion et de rencontres. Une trentaine d'associations a pu présenter ses actions et parler de leurs problématiques. Parmi les associations présentes, le comité de gestion de la zone côtière ouest qui œuvre depuis sa création à la sauvegarde environnementale du Langaron calédonien, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. François Antifon est membre du comité de gestion de la ZCO. Il a assisté à cette journée d'échange à Bouraille et pour lui, les réponses apportées sont plutôt encourageantes.
Aujourd'hui, depuis la crise économique, on a un vrai problème, c'est-à-dire que, comme pratiquement toutes les associations du territoire, on a perdu nos subventions. Et la ZCO est à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Donc, ce qui pourrait entraîner la perte de l'inscription au patrimoine de l'humanité. Mais le gouvernement, via l'OFB et puis la NCB, a réussi à faire cette journée de présentation pour trouver des financements. Donc on a des pistes intéressantes, soit par projet, et grâce à l'État aussi, soit pour du fonctionnement. Donc la journée a été très productive, on a bien échangé, chacun a présenté ses réussites ou ses problèmes. Et puis on a essayé de trouver des solutions. Et puis il est vrai que l'ANCB avec l'OFB et l'État vont apporter quelques solutions pour trouver du financement et continuer à pouvoir gérer des associations, dont le comité de gestion de l'ANCB.
La journée s'est clôturée à 17h après une matinée d'échange et une séance de film débat l'après-midi. La communauté du Pacifique lance un appel à candidature. Des jeunes âgés de 18 à 30 ans sont recherchés pour participer à un programme de prévention des maladies non transmissibles, les MNT. On parle par exemple de diabète, de maladies cardiovasculaires ou même de cancer, des maladies qui peuvent être évitées si l'on change certains comportements à risque. Les jeunes ambassadeurs sélectionnés pourront participer à des sessions de formation sur la prévention et le contrôle de ces maladies et pourront aussi mettre en œuvre des activités innovantes pour sensibiliser leur communauté. Les personnes intéressées ont jusqu'au 30 avril pour candidater. Les renseignements seront disponibles sur le site de la CPS. A noter que l'appel à candidature est ouvert à l'ensemble des 22 pays et territoires membres de la communauté du Pacifique. 18h07, on marque une dernière pause dans ce journal. À suivre quelques mots de sport et la météo.
Ah, ces assurances! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, et c'est du sport, Lionel Sabot.
Et du football, et J-3 avant la demi-finale des qualifications océaniennes de la Coupe du Monde. La sélection calédonienne continue sa préparation, Léo Fichon.
Après avoir affronté des clubs du territoire comme Tigasport, Magenta ou encore l'Essor de Marée, une partie de la sélection s'est envolée dimanche pour la Nouvelle-Zélande. Les 12 joueurs qui évoluent en Nouvelle-Calédonie ont disputé ce matin une opposition de 40 minutes face à l'équipe réserve du Wellington Phoenix. Les Cagous se sont imposés opposé 2-1 grâce à des réalisations de Germain Ouéguéné, joueur de l'AS Magenta, et de Gérard Waya de Tigasport. Le reste de la sélection, composé de 2 joueurs professionnels qui évoluent en Israël et en Australie et de 9 autres qui jouent en métropole, n'a pas pris part à l'opposition puisqu'ils sont arrivés tout dernièrement sur le territoire néo-zélandais. Une sélection qui est quasiment au complet hein, puisqu'il manque encore un joueur, Abizer Geno, qui est toujours en Israël. Le joueur du Beitar Jérusalem était titulaire hier avec son club. Il a disputé 82 minutes contre le Maccabi Haïfa, un match qui s'est terminé sur le score de 3-0. Les Kagous continuent donc leur préparation en Nouvelle-Zélande avant d'affronter Tahiti. Ce sera vendredi à 13h10 au Sky Stadium de Wellington. Ce sera donc la demi-finale des qualifications à la Coupe du Monde.
Allez, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Alors, cette nuit, sur la côte ouest, le temps s'assèchera rapidement. Ailleurs, les nuages resteront très présents et donneront de bonnes averses sur les versants est de la chaîne. D'est de 5 à 10 nœuds en général, le vent soufflera localement plus fort sur les points nord et sud, proche de 15 nœuds. Sur l'ouest, il deviendra variable faible. Les minimales seront toujours comprises entre 22 et 25 degrés. Demain matin, le ciel deviendra progressivement très nuageux, avec des averses qui épargneront souvent la façade de l'ouest. Le vent d'est-sud-est à sud-est montera et s'établira entre 15 et 20 nœuds en cours de journée, un peu plus faible sur le nord-ouest lyonnais.
Merci Nicolas, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue.